France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. Je voudrais raconter aujourd'hui quelques bouts de la vie d'un homme connu pour sa pensée cryptique, mais dont la biographie, d'une extrême bizarrerie, semble n'avoir pas éveillé l'attention. Pour les étudiants en philosophie dont je fis partie, le nom de Ludwig Wittgenstein, le fondateur par son traité logico-philosophique de toute l'effervescence de la philosophie analytique anglo-saxonne, est de ceux qui donnent à certains l'envie de changer de trottoir philosophique. Nietzsche convient parfaitement aux emportements post-adolescents. Sartre appelle à s'inventer à la terrasse du café de son choix. On habite le monde en poète avec Heidegger et on fait l'expérience du visage avec Lévinas. Que du bonheur à les belles années d'Hippocagne, de Sorbonne, l'exaltation. Wittgenstein, c'est toute une autre histoire. On dit de lui qu'il condamnait la philosophie au silence. Pour comprendre Wittgenstein, il faut maîtriser Russell et Frege, la logique propositionnelle et le calcul des prédicats, la linguistique et bien d'autres domaines complexes et arides. Un philosophe qui forge avec une langue élémentaire des concepts incroyablement difficiles d'accès. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus, livre culte des mathématiciens et des philosophes, ce qui est rare, il estime avoir écarté les faux problèmes posés par la philosophie pour aller au langage, seule image de la réalité. Un philosophe qui prend sur lui d'expliquer le langage pour décrire l'indicible, le tout avec un verbe minéral, implacable, tout sauf exaltant. Ce n'est pas facile du tout, Wittgenstein. Même son maître, Bertrand Russell, n'était pas sûr de comprendre ce qui se passait dans ce cerveau, sous cette chevelure rebelle. La mimique était crispée, les yeux perdus et caverneux, une rigueur terrifiante se dégageait de ce visage. On s'attendrait à ce que ce beau faciès soit celui d'un assassin de masse, comme d'un champion du monde d'échecs.
Une chose peut ou bien être ce qui arrive, ou bien n'être pas ce qui arrive, et le reste demeurer égal. Le monde est tout ce qui arrive.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
Débrouillez-vous avec ça, sachant que c'est un million de fois plus complexe que ça n'en a l'air. Mais le pire avec Wittgenstein, c'est qu'il y en a deux. Le Wittgenstein du Tractatus, puis celui de son retour à la philosophie dans les années 30-31, avec les recherches philosophiques où il livre, dit-il, un combat contre l'ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre langage. On a dit que sa deuxième philosophie aura eu pour ambition de déconstruire la première, d'en dissoudre magiquement les problématiques. La partie ardue de cette émission s'achève pour nous permettre de rentrer dans l'histoire beaucoup plus accessible d'un homme à la biographie totalement chaotique. Car c'est ce qui se passe entre les deux Wittgenstein pendant les années où il avait déserté la philosophie qui nous intéresse. Car de tous les philosophes, Wittgenstein est probablement celui dont la biographie est la plus hallucinante. Au sortir de la guerre en 1918, alors qu'il finit le Tractatus, son frère Kurt se suicide. Et il faut ajouter que c'est le troisième de ses frères à faire ce choix, qui du reste l'a lui-même tenté. Son frère Paul, si on permet d'ajouter à l'étrangeté de cette généalogie, était pianiste de concert, malgré son amputation du bras gauche, à qui Ravel dédia le fameux Concerto pour main gauche. Écoutez. Tout ça avec une main gauche. Pourtant, Ludwig Wittgenstein était né à Vienne en 1889, héritier d'une des plus grosses fortunes d'Europe, celle de son père, descendant d'une lignée ashkénaze compliquée et roi de l'acier autrichien, l'un des hommes les plus riches du monde. Baptisés, arianisés avant l'heure, les enfants Wittgenstein sont au centre de la brillante vie culturelle de la Mitteleuropa, celle de Freud, mais aussi de Brahms, de Klimt, de Mahler, dont ils sont les mécènes. Comme l'illustre Robert Musil, l'auteur de « L'homme sans qualité », c'est une époque où les sciences et la poésie se touchent presque. Bien que méfiant envers l'exactitude scientifique, Ludwig est chez lui dans la poésie de Trakl comme dans les mathématiques de Frege. Wittgenstein figure sur une photo de classe aux côtés du petit Adolf Hitler. Et l'on dit même que les parents Wittgenstein et Hitler se sont consultés pour adresser leurs enfants respectifs au fameux docteur Freud. Wittgenstein aurait pu, dit-on, être ce juif trop intelligent qui enflammait la haine du jeune Hitler. Brahms disait que leur maison ressemblait à une cour royale avec 7 pianos à queue, toute la famille ayant l'oreille absolue. C'est d'ailleurs au son d'un piano dans un bar où il avait exigé qu'on joue « Verlassen, verlassen, verlassen bin ich »« Abandonné, 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 je suis » que son frère Rudi avait bu un verre de lait au cyanure avant de s'effondrer sans vie. C'est ce que vous entendez derrière. Catholique, mystique mais revendiqué juif, on constatera donc la schizophrénie ou la déprime profonde de la famille Wittgenstein, à laquelle la richesse n'apportera jamais la moindre consolation, bien au contraire. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui la fuite. Quand Wittgenstein, tout à fait incertain de son intelligence, convainc le monde entier que son Tractatus est une des œuvres majeures de la philosophie, il s'échappe, il erre, et au décès de son père, alors qu'il est à la tête d'une fortune colossale, il décide de s'en débarrasser. Wittgenstein n'a que faire de ses millions, et à sa volte-face, il ne donne pas même une couleur altruiste. Comme il considère la richesse comme une épreuve, il ne donnera pas sa fortune à des pauvres, car il estime qu'elle bouleverserait leur vie, mais à des gens plus habitués à la richesse, en l'occurrence ses frères et ses sœurs. Puis il devient jardinier au monastère de Hütteldorf, en Basse-Autriche. Il cultive des légumes et des roses au milieu des prêtres, considérant un temps sérieusement les rejoindre dans le sacerdoce. Le premier homme était aussi le premier jardinier. Wittgenstein aura probablement entendu plus d'une fois ce « Où es-tu ?» adressé par Dieu à Adam. Ce que Wittgenstein a trouvé dans les jardins, il ne l'a jamais dit. Peut-être cette conjonction d'un espace et d'un temps, puisqu'un jardin, en suivant les saisons, existe dans l'espace et dans le temps. Ce qu'on sait de Wittgenstein, jardinier, se devine dans une lettre adressée au comité de jardinage du Trinity College de Cambridge, où il était à partir de 1929, dans laquelle il repense totalement le jardin, critiquant la disposition des dahlias en gâteau d'anniversaire ainsi que la position des arbres. Des témoignages nombreux font état d'un Wittgenstein qui faisait de grands efforts auprès de ses étudiants en philosophie pour les persuader d'abandonner une telle carrière et de choisir plutôt quelques métiers décents. On sait qu'il leur propose des jeux de langage bizarres et les convoque non pas en amphithéâtre, mais chez lui, dans son appartement. Il devient tout à coup instituteur dans un village complètement paumé, où son manque d'empathie, caractéristique probable de son haut potentiel intellectuel, le rend terrifiant auprès des élèves. C'est alors le milliardaire le plus frugal du monde, un ascète. Sa famille veut l'aider, il refuse tout argent qu'il n'aurait pas gagné. Ce n'est pas fini. Il devient aussi architecte. Si vous passez par Vienne, vous pouvez visiter le centre culturel bulgare qui est son œuvre. Et puis infirmier, pendant la guerre, dans un hôpital de Londres. En résumé, il faut à qui veut comprendre la vie de Wittgenstein presque autant de ressources intellectuelles qu'il en faut pour approcher son œuvre. Un homme codé, multiple, y compris dans sa sexualité, infinie dans toutes ses dimensions. Une pensée qui change comme les poissons dans la rivière et qui voudrait aussi être la rivière.
Vers la fin de l'été 1950, nous prenions le thé avec les von Wright dans leur jardin. Il y avait du soleil et j'ai demandé à Wittgenstein si je pouvais prendre une photo de lui. Il répondit que oui, je pouvais le faire, s'il pouvait poser en tournant le dos à la caméra.
Bertrand Russell, son maître, parla ainsi de lui dans un éloge funèbre plutôt sec.
Au début, j'ai douté qu'il fût un homme de génie ou un excentrique. Mais j'ai très vite opté pour la première option. Certaines de ses premières opinions ont rendu la décision difficile. Il a par exemple soutenu, à un moment donné, que toutes les propositions existentielles sont dénuées de sens. C'était dans une salle de cours, et je l'ai invité à considérer la proposition « Il n'y a pas d'hippopotame dans cette salle actuellement ». Comme il refusait d'y croire, j'ai cherché sous tous les bureaux sans en trouver. Mais il n'en était pas convaincu.
Un de leurs échanges épaissit encore le mystère Wittgenstein. « S'il vous plaît, dites-moi si je suis complètement idiot ou pas. »«
Mon cher, je n'en sais rien. Pourquoi me le demander ?»«
Pour le reste, je ne puis en parler, et donc je le tais. » Merci à l'indispensable Françoise Le Floch, à l'experte Océane Dias, attachée de production Elodie Vazex, et bravo à Théo Wiesmann. Que votre semaine soit aussi une histoire truculente. Does it a sky?